Voilà, donc nous sommes le 19 mars à Bourgogne dans le cadre de la préparation de la soirée Fabrica Voxa avec Montagne Froide, comme chaque année. Et donc nous avons fait la connaissance de Jean-Michel Espitalier qui est ici pour se présenter une de ses pièces avec d'autres artistes. Et donc j'avais envie de te demander, d'abord, tu es un des cofondateurs de Java entre 1989 et 2006, 25 numéros de cette revue pendant donc 16 ans. Et notamment, nous parler de la création de la revue et aussi, puisque j'ai découvert que lors des 10 ans de la revue, il y avait eu des événements liés à cette revue. Quelque part, c'est peut-être une forme qui peut évoquer Fabrica, c'est-à-dire à la fois un événement avec des programmations. Ah, voilà, en quelques mots, tu es bien placé pour nous parler de Java.
Ok, mais alors oui, donc la revue, effectivement, il y avait une revue papier et puis on a organisé beaucoup d'événements, ça nous paraissait important, c'était un déplacement finalement sur le terrain de la scène, donc de la performance, de la lecture, de la poésie sonore, etc., même de la vidéo, de la musique, donc du projet de Java. Le projet de Java élaboré en 89, alors les premiers numéros sont encore hésitants comme souvent, on sait ce qu'on ne veut pas faire, on ne sait pas forcément exactement où on veut travailler. Donc nous, ce qui nous intéressait, c'était de réactiver un peu les rapports expérimentaux à la poésie, à la littérature, à l'écriture, aux écritures. C'est-à-dire repasser par une lecture des avant-gardes, mais sans être dans l'avant-garde, en tout cas historique, parce que ça nous paraissait totalement terminé, quoi. L'avant-garde historique a eu son temps, et puis surtout, on n'était pas dans cette dureté de l'avant-garde, on avait un rapport aux politiques qui était beaucoup, beaucoup, beaucoup moins affirmé, même si on y est revenu plus tard, mais il y avait quelque chose qui avait à voir avec la légèreté, justement, avec la surface de Leuzienne. Voilà. C'était quelqu'un qui était très lu à l'époque, toujours d'ailleurs. Donc voilà, c'était une sorte de rapport aux grands expérimentateurs, et en même temps, jouer sur une légèreté, une fraîcheur. Le titre est une sorte d'autodérision, c'est aussi une polysémie, parce que Java, on sait pas ce que c'est. Hein. Ça peut être une soirée agitée, c'est une danse un peu canaille, c'est une île, donc un aïeul, les ailleurs, etc. Donc
alors, ça nous intéressait. J'ai pas eu l'occasion d'en avoir un numéro à manipuler, mais est-ce qu'il y avait un parti pris typographique, au niveau d'une forme particulière?
Alors non, la revue était de forme assez classique, en tout cas quant à sa facture. Alors par contre, on confiait les couvertures, chaque numéro. La couverture de chaque numéro, pardon, était confiée à un artiste contemporain. Donc effectivement, c'était très anti-marketing parce que il n'y a pas deux numéros qui se ressemblent. Et puis au début, on avait toujours un sous-titre qui aussi appuyait sur ce côté un peu, sur cette autodérision. Pour mes numéros, ça s'appelait Revue de mauvais genre. On avait fait un numéro avec un dossier sur Jean-Luc Parent, qu'on avait appelé Revue qui met les boules. Enfin voilà, il y a un côté un peu potache, oui. Mais on voulait jouer sur cette distance parce que c'était aussi une époque où il y avait une espèce d'esprit de sérieux, en tout cas dans la poésie, qui nous effrayait un petit peu. Même si nous, c'était sérieux notre histoire, notre projet, notre désir, parce que c'était ça, c'était quand même une revue de désir. Mais on voulait justement avoir cette distance un peu amusée. Enfant du rock aussi, donc fils de Zappa, de Gong, etc. Et donc il y avait aussi ce rapport un peu distancié, un peu critique par rapport à la chose poésie qui était avec des revues qui avaient des titres très intellectuels ou très écologiques. Il y avait une mode des revues à titre.
Pardon ? Des fanzines écolo, par exemple.
Non, mais même des revues de littérature, mais il y avait un clin d'œil à l'écologie. Il y avait Phréatique, il y avait Textuaire, il y avait Limon, il y avait etc. Et puis par ailleurs, il y avait les revues dures, TXT, Textuel, les revues de texte, les revues...
Action
politique aussi. Voilà. Et donc on a voulu un peu créer notre propre espace, donc en relisant en fait les avant-gardes qui nous intéressaient, les proches ou les lointains aînés, mais aussi en faisant émerger une génération finalement qui avait lu les avant-gardes, mais qui ne voulait pas rejouer cette histoire-là.
Très bien. Et puis donc, comme on le demande à tout invité ici qui traverse et qui découvre le centre, c'est un conseil, donc soit sonore ou de lecture d'un ouvrage qui t'a marqué, récent ou pas récent, peu importe, mais vraiment une recommandation comme ça.
Alors, question éminemment difficile dans la mesure où j'ai toujours 5 ou 6 bouquins sur le feu. Évidemment, je lis beaucoup, j'ai beaucoup lu. Je suis aussi un dingue de musique parce que je suis moi-même musicien et j'écoute beaucoup de sons, beaucoup de musique, même des choses très plus classiques. Hein. Moi, en ce moment, je vais peut-être plutôt te dire ce que j'écoute en ce moment. Mm-hmm. Voilà, c'est des choix très variés. Alors, j'écoute Stereolab. j'aime beaucoup Stereolab, j'aime beaucoup la chanteuse, la française dont j'oublie le nom. Assez proches, même époque, et puis ils ont eu un musicien commun, Zéa Iliamas. C'est un groupe que j'aime bien, une espèce de reprise un peu des. Un groupe très, très, très mélodique, parfois très proche des Beach Boys, mais avec le son. Des années 2000. Et puis j'écoute aussi beaucoup, bon, évidemment j'écoute énormément de choses, mais j'écoute aussi beaucoup le. Moi j'aime beaucoup le post-punk, ce qu'on appelle aussi le post-rock ou le rock expérimental. Et il y a deux groupes que j'aime beaucoup, c'est un groupe américain qui s'appelle US Maple, qui est un peu une sorte de mélange de punk et de rock psychédélique. On est entre Syd Barrett et les Sex Pistols. Et puis donc avec une espèce de radicalité. Et puis un groupe que j'aime beaucoup aussi, un groupe de la fin des années 70, qui est un groupe culte, mais un groupe qui n'a pas émergé dans le grand public, on va dire, enfin qui s'appelle This Hit, et qui est assez proche de ce qu'ont pu faire King Crimson, par exemple, dans les années 80-90, avec des choses très 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 étranges et très assez inclassables, voilà, entre musique ambiante, aussi une espèce de punk électro, mais avec une espèce de radicalité aussi, moi, que j'aime beaucoup. Et il y a notamment des clips qu'on peut trouver sur Internet, des vidéos, enfin, il y a un morceau qui est absolument hypnotique, l'image et le son, enfin, c'est absolument génial. Donc voilà, c'est le groupe que j'écoute. C'est un groupe qui a publié, je crois, 3 albums, donc il y a peu de choses. Mais c'est des petites merveilles, parce que c'est une sorte d'ovni, on ne sait pas trop d'où ça vient, où ça va, par où ça passe, et moi, c'est ça que j'aime bien.
Très bien, merci beaucoup à toi pour ces petits conseils. Et d'ailleurs, on est tout près de l'espace disque, donc on a certains des groupes que tu as cités, mais pas tous, donc il faudra qu'on vérifie. Merci à toi.
Et puis peut-être une spéciale dédicace à Gong, dont le leader David Allen vient de
disparaître vendredi dernier.
C'est un groupe, voilà. qui a beaucoup marqué.
D'ailleurs, dans le cadre de ces petits rebonds de conseils, il n'est pas encore en ligne, mais on a eu un court entretien avec Lionel Magal de Cryum Delirium, qui a côtoyé toute la David Allen et qui a fait un petit hommage aussi, comme avec toi, okay. Via le micro. Merci. Okay.